Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous-nous Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous vous proposons de réentendre un reportage qui avait été diffusé le 23 octobre dernier. Et on vous emmène au Niger, le pays tristement champion du monde en termes de prévalence de mariages forcés. Un quart des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans, trois quarts avant celui de 18 ans. Et ce chiffre, en fait, a peu évolué au cours des 20 dernières années. Parmi les plus vulnérables, ce sont les jeunes filles en zone rurale qui ont grandi dans des familles pauvres et qui ne sont pas allées à l'école. Une rencontre s'est tenue cet automne à Dakar sur le sujet pour réfléchir à des mesures en vue de mettre fin au mariage des enfants organisé par le Sénégal en partenariat avec l'Union africaine avec l'appui d'une coalition régionale de plusieurs ONG et agences onusiennes. Alors, quelles conséquences ces mariages précoces ont-ils sur la santé des jeunes filles, mais aussi sur celle de leurs enfants, puisque qui dit mariage précoce dit souvent grossesse précoce, avec des risques de mortalité maternelle ou même de fistules obstétricales. Cette lésion, résultat d'un accouchement prolongé qui crée une communication anormale entre la vessie et le vagin ou entre le rectum et le vagin qui provoque donc des écoulements. C'est un reportage de Charlie Dupuis au Niger, à Niamey et à Tessawa, au sud du pays, et c'est en partenariat avec l'organisation Save the Children.
Je m'appelle Rachida. Je crois que j'ai 15 ans, mais je n'en suis pas sûre. Je ne connais pas précisément mon âge. Je viens d'un village qui s'appelle Daboudou, dans l'est du pays. J'avais 14 ans quand on m'a mariée, l'année dernière. Ce sont mes parents qui m'ont donné en mariage. Je n'ai pas choisi. J'étais à l'école coranique, cela faisait un an que j'assistais aux cours. Un matin, le frère de mon prétendant m'a demandé de le suivre, sans me dire où on allait. Il m'a emmenée chez un homme, on m'a dit que j'étais arrivée chez mon mari. Et c'est comme ça que j'ai été mariée, le jour même. Personne ne m'avait prévenue. C'était mon cousin, il était plus âgé que moi.
Et alors ensuite, tu es tombée enceinte ?
Oui, près d'un an après le mariage. Quand j'ai commencé à être en phase de travail, à sentir les contractions, j'ai dû attendre plusieurs heures avant qu'on m'emmène au centre de santé. Quand je suis arrivée au centre et que j'ai accouché, l'enfant a juste poussé un premier cri et puis il est décédé. Un peu plus tard, j'ai commencé à avoir des écoulements d'urine. J'ai eu une fistule obstétricale. Je me suis mise à ne pas pouvoir me contrôler en public et à sentir l'odeur d'urine. J'avais honte parce que dans le village, quand cela m'arrivait devant les autres, tout le monde me regardait. Ça me dérangeait beaucoup. Je me suis sentie rejetée. Les gens me fuyaient dès que j'arrivais quelque part. Alors, je me suis mise à rester tous les jours à la maison, chez mes parents. Je ne faisais plus rien, je n'allais nulle part. J'ai beaucoup pleuré. Ce sont seulement des larmes de sang que je n'ai pas versées.
Tu as été mariée jeune et tu as dû être enceinte jeune, ce qui a favorisé ta fistule obstétricale, ton problème. Comment tu le vis aujourd'hui ?
Je suis vraiment en colère parce qu'on m'a imposé un mariage forcé. Mes parents ne m'ont pas laissé le choix. Je n'ai jamais aimé cet homme. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut laisser la fille choisir le moment de son mariage et l'homme avec qui elle veut se marier. Si les parents refusent, la fille va être mariée avec un homme plus fort qu'elle. Et au moment de son premier accouchement, elle risque de contracter cette incontinence, ce problème de santé que j'ai. C'est à cause de ce mariage que j'ai dû traverser cela. Les gens s'obstinent à dire que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de tout ça. C'est la pratique des hommes. Les responsables, pour moi, ce sont les parents des enfants. Ce sont eux qui, je ne sais pas pourquoi, vont arranger les mariages, dire qu'une telle va épouser un tel, sans même informer la jeune fille concernée. Mais les parents oublient que ce n'est pas eux qui vont devoir rester dans le foyer, c'est leur fille. Et si cette vie ne lui convient pas, elle va tomber malade, comme moi, ou bien fuguer quelque part sans dire à personne où elle va. ou peut-être même qu'elle va se suicider. Et pour moi, la vie que j'ai vécue jusque-là, ce n'est pas une vie.
Bonjour Charlie Dupio.
Bonjour.
À cette jeune femme que l'on vient d'entendre, elle est en colère après son mariage. Alors, quel avenir espère-t-elle avoir ?
Aujourd'hui, Rachida espère divorcer. Sa mère serait même en train de l'aider dans cette démarche pour qu'elle puisse obtenir un certificat de divorce. Rachida a aussi pu être opérée il y a quelques semaines de la fistule obstétricale dont elle souffre. Une opération qui a eu lieu dans le centre de référence de Niamey. C'est l'un des quelques centres du pays où on peut réparer ces femmes. Alors elle reste dans le centre pendant 3 mois, le temps de cicatriser, avant de rentrer dans son village et elle espère de pouvoir trouver un nouveau mari.
Alors Rachida est en colère contre ses parents qui ont pris la décision à sa place. Qu'est-ce qui motive ce genre de décision en général ?
Alors, pour les parents, marier leur fille permet d'éviter des grossesses hors mariage qui les inquiètent, qui sont vraiment une honte pour la famille, un grand déshonneur qu'il faut à tout prix éviter. Ces filles ne vont pas à l'école, souvent, elles restent aider leur mère à la maison pour les travaux au champ ou pour le petit commerce. Alors, le seul avenir qu'on envisage pour elles, c'est qu'elles deviennent épouses et mères. Une fille qui se marie tard est mal vue. D'ailleurs, un père qui était sur le point de marier sa fille de 14 ans m'a dit « J'aurai l'air de quoi si je ne la marie pas ?» Toutes les autres filles de son âge au village sont mariées. Et puis, bien sûr, c'est aussi une bouche en moins à nourrir, une charge en moins pour des parents qui gagnent très peu. Il y a aussi l'espoir que le mari puisse aider financièrement la famille, si c'est possible. Et à noter que 20% de ces jeunes filles mariées de 15 à 19 ans sont dans une situation de mariage polygame.
Alors Charlie, on parlera plus en détail de la fistule obstétricale dans une autre émission de Priorité Santé, un autre reportage au Niger. Mais quelles sont les conséquences de ces mariages précoces, surtout des grossesses précoces sur la santé de ces adolescentes?
Pour le savoir, je suis allée visiter la maternité Issaka Gazobi de Niamey. C'est la plus grande maternité du pays. Et c'est le docteur Issoufou Marouf qui m'accompagne. Il est gynécologue obstétricien, chef de service des urgences au sein de la maternité.
Donc là, présentement, on est au niveau de la salle d'accouchement. Donc c'est ici que l'accouchement se déroule.
Alors là, on s'avance un petit peu et on arrive dans une salle avec beaucoup de femmes qui sont allongées.
Effectivement, donc vous voyez d'une manière générale, c'est vraiment dans une situation, je dirais, de promiscuité. Parce que vous voyez des femmes par terre, on a un afflux très important.
Donc là, on a une vingtaine de femmes à peu près qui sont toutes allongées. Effectivement, beaucoup sont par terre. On a seulement 4 lits.
Oui, voilà, on est débordé en un mot.
Combien de femmes accouchent ici chaque jour ?
Par césarienne, on arrive à avoir jusqu'à 20 césariennes par jour. C'est que la majorité des femmes que vous voyez ici, elles ont été référées parce que là où elles étaient, la prise en charge à ce niveau-là n'était pas possible. La majorité, elles viennent accoucher par césarienne. Dans cette maternité, le nombre de césariennes qu'on arrive à faire par année, ça tourne aux alentours de 6000 césariennes. C'est énorme, avec 2 blocs opératoires. C'est comme une usine, ça tourne.
Combien de chirurgiens, de médecins sont habilités à faire ces césariennes ici ?
Gynécologue obstétricienne, au niveau de cette entité, on est aux alentours de 20. À ce qui concerne, en tout cas, les chirurgiens qui sont aptes à réaliser cet acte opératoire, je pense que là, il n'y a pas de problème.
Et là, ces femmes donc, attendent l'accouchement et on voit beaucoup de visages jeunes.
Le phénomène de ce qu'on appelle le mariage précoce, c'est une réalité. Et ça, c'est vraiment un problème, je dirais, de santé publique.
On va aller parler à l'une de ces femmes.
Oui, d'accord.
Bonjour.
Yamtan Khadija Hamma.
Je m'appelle Khadija Hamma.
Aïba Bakor Dar Salam, Tera Djine. Tera.
Je viens de la région de Tera.
Dans l'ouest du pays.
Dans l'ouest du pays, oui.
Wallahi amin jeri warang cin hakum.
J'ai 28 ans.
À quel âge est-ce que vous êtes tombée enceinte pour la première fois?
Jeri warang cin hinka.
Je me suis mariée à l'âge de 17 ans et j'ai eu ma première grossesse à 18 ans.
Et comment s'est passée cette grossesse?
Makolana isam.
J'ai pas consulté du moins à la première grossesse. J'étais enfant aussi. Je ne savais pas qu'il fallait aller consulter. Et personne ne m'a donné l'idée d'aller consulter.
Je
n'ai pas eu de problème pendant la grossesse, mais au moment de l'accouchement, j'ai eu un peu de problème. Parce que à l'accouchement, j'ai eu une déchirure du périnée qui m'a empêchée de marcher, de m'asseoir, ce qui fait 7 jours jusqu'au jour du baptême. Donc du premier jour au 7e jour jusqu'au jour du baptême, je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas marcher. On m'a amenée au dispensaire. Ils ont fait la réfection du périnée. Quand je me suis réveillée, ça fait un peu mal. L'enfant va bien, il n'a pas eu de problème après.
Vous étiez jeune quand vous êtes tombée enceinte. Est-ce que vous étiez consciente des risques que vous encouriez à être enceinte aussi jeune?
C'est pas moi. La faute, peut-être que c'est au niveau de mon papa. Chez nous, les Peuls, dès qu'un Peul a eu un enfant, une fille, dès l'âge de 10 ans même, il la marie. Donc, ils ne connaissent pas vraiment ce que ça peut provoquer. Même si je ne suis pas contente, c'est mon papa déjà qui m'a donné un mariage et je suis obligée d'obéir à ce qu'il dit.
Quelles autres difficultés vous avez rencontrées ?
J'ai eu une déchirure au niveau du périnée. Cette fois-ci qui n'a pas été réfectionnée. Et c'est suite à ça que j'ai eu une psychose puerpérale qui a fait en sorte qu'on m'a transférée au niveau du service de psychiatrie à l'hôpital national. Au deuxième accouchement, j'ai accouché d'un mort-né. Quelques minutes après, il est décédé. Dans ma tête, c'est pas ça. La psychose a duré à peu près 20 jours.
Et alors, vous vous souvenez des peurs que vous aviez à ce moment-là?
La peur que j'ai eue, c'est-à-dire au moment de cette déchirure, je ne me sentais plus femme. C'est ça qui m'a fait plus peur. J'ai eu peur parce que avec cette maladie-là, je craignais qui peut me garder après. Est-ce que je serai rejetée par mon mari? Est-ce que je serai rejetée par mes parents? Tout ça, là, ça devient un problème pour moi. C'est pour cela que j'ai dit que ça me faisait peur. Moi-même, je craignais la mort. La troisième grossesse s'est soldée par une césarienne. Donc, ce qui fait que je ne peux plus accoucher par voie basse. C'est pour cela qu'on me fait les césariennes. Mais maintenant, ça va.
Docteur Issoufou Marouf, vous êtes gynécologue obstétricien dans cette maternité. Là, cette jeune femme nous dit qu'elle a eu plusieurs déchirures, donc une déchirure du périnée. Alors, comment ça se manifeste? Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc le périnée, c'est la membrane qui se trouve entre la cavité vaginale et la partie supérieure de l'anus. Donc c'est toute cette partie-là, elle est appelée à se dilater. Il s'agit d'une situation où le périnée, c'est vrai, n'est pas souple parce qu'elle était jeune. C'est son premier accouchement. C'est des enfants. Et qui dit enfant, ça veut dire que toutes les croissances, la maturité de cet individu n'est pas au point. Donc, et si on n'a pas fait ce qu'on appelle une épisiotomie, évidemment, en ce moment-là, oui, on est appelé à avoir des situations de déchirure du périnée. Parce que l'épisiotomie, c'est quoi? C'est une opération qui consiste à couper le périnée. Et puis après, ça permet à ce que le périnée soit largement ouvert. Et ça facilite en ce moment-là l'expulsion et l'accouchement de l'enfant. Et dans cette situation-là, vous voyez, la plaie a été infectée, la prise en charge n'était pas bonne, et qui dit plaie a été infectée en postpartum. Donc c'est ça qui a fait que ça a évolué vers cette psychose puerpérale-là. La manifestation de cette psychose puerpérale, c'est décrit. Hein.
Ça crée des problèmes psychologiques.
Exactement, ça crée des problèmes parce qu'il y a une malaise qui est là. Est-ce que mon mari peut me désirer par la suite? Vous voyez, toute cette option-là fait en sorte que, du point de vue psychologique, il y a un effondrement.
Ça veut dire qu'en fait, quand on est enceinte aussi jeune, on court des risques. Et ces risques-là pourraient être minimisés si jamais il y avait un accompagnement adéquat.
Exactement. La grossesse de l'adolescente, en termes clairs, c'est une catastrophe. C'est que ces adolescentes-là, des fois, c'est pas qu'elles veulent pas venir voir les médecins, mais en fait, c'est la situation qui fait en sorte que, je suis jeune, j'ai honte.
Donc, on ne va pas faire des consultations prénatales.
Exactement, c'est difficile.
Pour certaines.
Voilà, pour certaines, c'est difficile de venir à ces consultations prénatales. Alors que ces consultations prénatales, en tout cas, c'est des moments privilégiés d'anticiper le problème qui risque d'arriver et même de programmer l'accouchement. Si cette adolescente-là, l'accouchement par voie basse est admis, ou bien, carrément, il sera le cas d'une césarienne, donc d'un accouchement par voie haute. Cette jeune femme que vous venez d'interviewer, en tout cas, elle rentre dans le contexte de ce qu'on appelle une échappée belle. Elle risquait la mort en cherchant à donner la vie. C'est des choses qui ne devraient pas arriver.
Une sorte de survivante, hein, ces échappées belles qui ont conscience de l'être. Et aujourd'hui, Charlie, cette jeune femme attend d'accoucher par césarienne.
Oui, pour son 4e accouchement, elle a très peur d'accoucher par voie basse, on peut le comprendre, vu toutes les complications qu'elle a dû subir, notamment ses ruptures du périnée. Mais elle a aussi peur d'accoucher par césarienne, même si ce n'est pas nouveau pour elle. Dès le 3e accouchement, elle avait dû être opérée. Elle a peur car elle ne sait pas comment cela peut se passer. Elle dit avoir peur de la mort. Elle dit même « j'ai peur de tout parce que jusque-là, à l'accouchement, je n'ai vécu que des situations difficiles ». Il y a ce chiffre que j'aimerais vous donner. 18% des femmes de 20 à 24 ans au Niger ont donné naissance à un bébé pour la première fois avant l'âge de 15 ans. Alors par rapport à ces mariages et à ces grossesses précoces, certains s'inquiètent, se mobilisent, notamment au niveau du gouvernement. C'est le cas du docteur Ibrahim Soulé, directeur général de la santé de la reproduction au ministère de la Santé publique.
Les défis en matière de santé reproductive au Niger sont énormes. Tant que le Niger continue à appliquer ses valeurs traditionnelles néfastes que sont le mariage des enfants, les enjeux de santé de la mère ou de l'enfant vont aller s'accentuant chaque jour. C'est la très forte mortalité maternelle, c'est la très forte mortalité infanto-juvénile et non-natale, c'est les fistules génitales féminines. Si les réglementations en vigueur n'ont pas réussi à arrêter le mariage des enfants, il faudrait qu'au moins retarder la première grossesse, que la première grossesse ne puisse pas intervenir pendant encore la période de l'adolescence.
Mais comment retarder la première grossesse dans un contexte où souvent, traditionnellement, on s'attend à ce que la jeune femme donne naissance dans l'année qui suit le mariage?
C'est ça justement l'enjeu, j'ai dit. La population nigérienne est pronataliste.
Avec un taux de fécondité par femme de 7 en moyenne.
De 7,6, l'un des plus élevés au monde. On a énormément ce défi-là, celui de l'adhésion de notre population au service de planification familiale. Notre taux de prévalence contraceptive est de 12,2%.
Donc 12% seulement des femmes ont accès à un moyen de contraception.
Moderne.
Moderne, c'est-à-dire?
Toutes les méthodes confondues. La pilule, les méthodes de couture comme la pilule, les méthodes de longue durée. Le stérilet. Les méthodes donc d'implant.
Vous comptez le préservatif dedans ou pas?
Le préservatif est dedans. Autrement, 88% des femmes n'ont pas accès à un service de planification familiale. Pour plusieurs raisons. La première raison, nous avons un taux de couverture sanitaire au Niger des plus faibles. Moins de 50% de la population a accès à un service de santé. C'est 47,78% qui ont accès à un service dès le rang de 0,5 km. Cela veut dire que même si la femme a besoin d'aller pour un service de PF là.
Donc, planning familial.
Planning familial. Il lui faut marcher des kilomètres. Il n'y a pas un problème d'activité financière parce que la planification familiale au Niger est gratuite. Par contre, mettre une adolescente au Niger, qu'elle soit mariée ou non mariée, à un procédé contraceptif est très mal vu par la société nigérienne traditionnelle. Alors le défi aujourd'hui, c'est impliquer les leaders religieux, les leaders traditionnels, là, pour qu'on voit la contribution de la planification familiale dans les mesures préventives qui sauvent des vies.
Le docteur Ibrahim Soulé, directeur général de la santé de la reproduction au ministère de la Santé, parle, on vient de l'entendre, de sensibilisation nécessaire dans un pays où les chefs traditionnels et les chefs religieux sont très influents. Le problème aussi, c'est le manque de lois, de textes sur le mariage des enfants.
Oui, pour l'instant, le code civil fixe l'âge légal du mariage à 15 ans pour les filles et à 18 ans pour les garçons. Et même si certains imams s'engagent à ne pas célébrer le mariage d'enfants, il existe toujours une vraie réticence des leaders religieux et de certains chefs traditionnels à freiner le phénomène.
Charlie Dupiot, on se retrouve dans quelques minutes. Les filles de Ili Haddad avec ce titre Eras Malan et dans Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des mariages précoces au Niger. Plus des trois quarts des jeunes filles sont mariées avant l'âge de 18 ans dans le pays et près de la moitié ont déjà eu un enfant à cet âge. Plus la famille est pauvre et plus les filles sont exposées à cette pratique. Elles qui vont très peu à l'école dans un pays qui se classe avant-dernier au monde pour son indice de développement humain devant juste la Centrafrique. Alors les grossesses précoces font peser sur ces adolescentes de nombreux risques pour leur santé. Elles sont aussi souvent exposées à des violences conjugales. Comment prévenir ces fléaux? Comment lutter contre les mariages précoces? Reportage donc au Niger. Charlie, parmi les femmes que vous avez rencontrées, il y a Jamila.
Oui, Jamila a 29 ans. Elle vient d'un village proche de Filingué, au nord-est de Niamey. Elle n'a jamais été à l'école. Elle vendait de la boule de mille au marché quand elle était enfant. Elle a été mariée à l'âge de 12 ans avec un homme de 30 ans. Mes parents n'ont pas voulu que je sache qu'un mariage avait été célébré en mon nom et en mon absence. Je ne sais même pas quand ils ont organisé la cérémonie. On m'a juste dit, tu vas rejoindre ton mari ce soir. Et on m'a emmenée à cheval dans la famille de mon mari, dans un village voisin à quelques kilomètres du mien. À l'époque, je n'avais pas de sein. Je n'avais même pas encore mes règles. On m'a fait rejoindre mon mari. Et là, on m'a attaché les mains et les pieds avec un fil de fer au pied d'un lit méchamment, comme si j'étais un animal, une chienne. On m'a frappé avec une chicotte et vous voyez, jusqu'à présent, j'ai encore des cicatrices sur mes chevilles. Ce sont les amis de mon soi-disant mari qui m'ont fait ça. Ils m'ont attaché parce qu'ils voulaient que mon mari me viole pour lui permettre de consommer le mariage. Je n'avais pas été préparée à ça. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un homme, encore moins le sexe et les relations sexuelles. Chez nous, c'est un sujet tabou. On n'en parle jamais. Et tenez-vous bien, j'avais mis 5 culottes. Justement parce que j'avais peur d'être violée. Ils ont commencé à m'enlever les culottes l'une après l'autre. Mais moi, je résistais, je criais, je pleurais. J'en ai même mordu certains pour qu'ils arrêtent. Ils étaient 5. 4 de ses amis et son grand frère. Et c'était son grand frère qui insistait pour me retirer mes culottes, pour que mon mari puisse me violer. S'il me violait, alors il avait la garantie que je reste au foyer.
Pourquoi ?
Parce que la virginité a une valeur chez nous. Si une fille n'est pas vierge, elle est une proie facile pour les hommes. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré fuir, pour préserver ma dignité. Comme je gesticulais dans tous les sens, mon mari m'a laissé me calmer un moment, pensant qu'une fois de retour, il allait coucher avec moi. Ses amis aussi sont partis. Quand j'ai été seule, j'ai coupé le fil de fer avec un couteau qu'ils avaient laissé là, à côté de moi. Ils m'avaient menacé avec ce couteau en me disant « Si tu n'acceptes pas de coucher avec moi, on va te tuer ».
Vous avez fui? Vous êtes parti où?
Je suis partie à Niamey parce qu'à Niamey, on m'a dit qu'il y avait des organisations qui aidaient les filles à se sortir d'une situation de violence ou de mariage forcé. Alors j'ai pris la fuite ce soir-là. Il était 19h, j'ai marché jusqu'à atteindre le goudron au petit matin. C'était loin. J'ai pu payer le transport jusqu'à Niamey grâce aux habits neufs donnés pour mon mariage. À Niamey, je suis allée toquer à la porte d'une femme chez qui ma mère avait travaillé comme bonne. Tout de suite après mon arrivée chez elle, elle m'a conduite à l'hôpital pour que je sois examinée. Elle a soigné mes pieds qui étaient enflés à cause de la marche et du fil de fer. Elle a eu pitié de moi. Elle m'a même donné des habits pour que je me change. Et puis, j'ai pu me rendre dans les locaux de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences. Aujourd'hui, grâce à l'aide de l'ONG, je ne suis plus dans une situation précaire. Je travaille même pour eux comme femme de ménage. Je mange bien et je suis à l'aise.
Mariama Moussa, c'est vous qui avez fondé cette ONG, SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences, à Niamey, en 98. Et vous avez accueilli notamment cette femme qu'on vient d'entendre. À quelle violence les femmes, les jeunes filles mariées tôt font face?
Certaines sont retirées de l'école pour être mariées de force et précocement. Et à l'issue de leur mariage, d'abord, elles sont torturées, puisque si la fille ne veut pas du mariage, il est évident qu'elle soit violée par le mari. On assiste tout le temps à des viols. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que le viol conjugal existe bel et bien au Niger. elle peut être traumatisée par le fait qu'elle ne soit pas vraiment mûre d'âge à savoir ce que c'est que les relations sexuelles. Surtout qu'aujourd'hui, il y a certains maris qui ne se protègent même pas. Si le mari ne se protège pas et qu'il contracte des relations sexuelles avec la fille, elle peut contracter une maladie sexuellement transmissible. Le VIH-Sida, il y a la gonococcie. Quand une femme a ça, elle peut devenir stérile. Quand les filles sont violées, on peut les attacher au pied d'un lit. Ou bien la tenir par des gaillards pour que le mari la viole devant tout le monde. Ça, c'est fréquent dans les villages. Du coup, la fille devient une fille traumatisée et c'est ce qui engendre la violence au sein du couple. Dès que la fille refuse d'entretenir des relations sexuelles avec le mari, c'est des coups qu'il lui donne. Il la frappe et l'homme devient violent parce qu'il ne peut pas accepter le fait que lui, il donne son argent pour se marier et que la femme refuse de l'accepter.
Parce que lui paye une dot pour se marier.
Il a payé la dot pour se marier. C'est un mariage formellement célébré. Pour lui, la femme devient sa chose. Parce qu'on chosifie les filles. Et l'homme exige à ce qu'elle soit une femme soumise. À tout moment, quand il vient vers elle la solliciter, il faut qu'elle l'accepte. Parce qu'ici, quand tu parles de viol conjugal, les gens te disent, mais écoutez, il l'a mariée. Il peut en faire ce qu'il veut. Et les femmes en souffrent aussi. Voilà. Elle peut soit fuguer, soit se suicider. Ça aussi, c'est des conséquences très graves.
Et Charlie Dupiot, que fait cette ONG, cette organisation Femmes et Enfants Victimes de Violences pour lutter contre les mariages des enfants ?
Ces militants et ces militantes sillonnent les villages pour sensibiliser les parents, pour les convaincre de ne pas marier leurs filles trop jeunes. Ils diffusent aussi des messages sur le sujet, sur des radios communautaires, sur des télévisions privées, publiques. Ils passent par des groupements de femmes et des groupements de jeunes sur le terrain. L'ONG intervient aussi si elle est alertée d'un cas de mariage forcé. La présidente que l'on vient d'entendre, Mariama Moussa, convoque alors les parents pour les dissuader. Mais quand ils ont déjà reçu et dépensé la dot, ils peuvent être plus réticents. Mariama Moussa doit alors faire appel au procureur de la République pour faire annuler le mariage. Et chaque jour, en moyenne, ce sont 5 femmes déjà mariées qui viennent frapper à la porte de l'ONG pour signaler des coups et des blessures, des violences psychologiques ou alors même des viols par leur mari. Et on l'a compris, consommer le mariage, avoir une première relation sexuelle, c'est aussi une façon d'emprisonner ces jeunes filles pour qu'elles ne puissent plus partir.
Et puis Charlie, cet autre constat, c'est le lien qui existe entre mariage précoce et malnutrition des enfants de moins de 5 ans issus justement de ces unions.
Oui, ce sont les résultats préliminaires d'une étude de l'ONG Save the Children qui mène des programmes dans ce domaine. Selon cette étude, 17% des enfants nés de mères adolescentes souffrent de malnutrition aiguë et près de 30% des adolescentes de 15 à 19 ans souffrent elles-mêmes de malnutrition. Je suis allée visiter le centre de renforcement nutritionnel intensif de Tessawa, au sud du Niger. C'est une clinique publique soutenue en partie par l'ONG Save the Children. Le docteur Mato, médecin de la clinique, nous fait la visite. Là, on voit une balance, une bassine suspendue au plafond, dehors.
Oui, la balance, c'est là où on fait le poids des enfants, juste à l'admission. Et chaque jour, le matin, on pèse tous les enfants, c'est là où on les pèse. Donc, on prend en charge tous les malades, les enfants de moins de 5 ans, donc qui sont admis avec une malnutrition aiguë sévère. Donc c'est ce genre d'enfants qu'on prend en charge. En même temps, les mères accompagnantes, si elles sont malades, on les prend en charge automatiquement.
Et on a des femmes, là, on voit, on est rentré dans une salle avec 8 lits.
C'est la salle de soins intensifs. En même temps, donc, les enfants qui sont sévèrement malades, très serrés, donc on les prend en charge ici jusqu'à ce qu'on les rétablisse un peu.
Et on a des femmes très jeunes, on voit des visages assez jeunes.
Il y en a vraiment, il y a même des femmes qui ont moins de 16 ans ici. Il y a deux, je vois.
Et comment expliquer cette malnutrition pour ces jeunes nourrissons?
Comment expliquer? Généralement, c'est des enfants qui tombent malades. Et à long terme, les enfants, comme la maladie elle est chronique, l'enfant tombe dans la malnutrition.
Les maladies, c'est-à-dire le paludisme notamment?
Généralement, c'est les paludes dans notre contexte. Sûrement la maladie a empêché à l'enfant de bien se nourrir à domicile. Il y a d'autres cas, c'est-à-dire le cas des mères qui n'ont pas assez de lait maternel. Par exemple, les mamans elles sont pas bien nourries elles aussi. Donc, ce qui fait qu'elles n'ont pas assez de lait pour vraiment nourrir leur enfant. Avec leur enfant, l'enfant, soit il est malade, il ne tète pas bien, ou bien il est faible pour téter. Donc, c'est ça, nous, qu'on appelle les cas spéciaux. Donc, c'est des enfants qui ont, par exemple, moins de 6 mois et les enfants qui ont plus de 6 mois avec un poids de moins de 3 kilos. Donc, imaginez des enfants qui ont 1 an, 2 ans avec moins de 3 kilos. C'est des enfants vraiment de vraiment nutris.
Voilà. Normalement, combien doit peser un enfant de 1 an?
Quand il doit dépasser dans les 8, 9, 10 kilos comme ça.
Sur certains lits, on a des moustiquaires, là, sur 4 des lits, sur les autres, non?
Normalement, chaque malade qui vient, il a droit à une moustiquaire.
Alors, quelle surveillance, justement, vous faites ici? Qu'est-ce que vous proposez à ces femmes? Est-ce que c'est gratuit?
Oui, la prise en charge, elle est totalement, intégralement gratuite. Donc les femmes, elles ne payent rien. Parce que dès qu'elles viennent, il y a tous les médicaments sont disponibles. Il y a les laits qu'on donne, tout ça là c'est gratuit, c'est assuré. Les moustiquaires, tout ce qu'on leur donne, c'est gratuit.
Là on voit sur le lit près de l'entrée un bébé qui a des bras très maigres, qui a la peau plissée. Mm-hmm. Il a aussi une perfusion dans le nez, une sonde dans le nez.
Oui, en fait c'est un enfant de 6 mois. Donc, on l'a pris comme un cas spécial. Donc, c'est un enfant qui refuse de téter. En même temps, on a fait la goutte épaisse, il a toujours le palu. Donc, on lui a mis un cathéter juste pour mettre une antibiothérapie. Donc, parce que la malnutrition, selon le protocole national, donc dès l'admission, il faut prendre les enfants et il faut mettre une antibiothérapie. Donc, l'antibiotique, à travers la sonde, c'est le lait. C'est le lait, la maman, elle, heureusement, elle a le lait. Donc, on lui dit de tirer le lait.
Comment ça s'explique le fait qu'il ne veuille pas téter?
Oui, moi, je pense que l'enfant avait développé un palud. Donc, c'est ça qui a coupé l'appétit. Sinon, avant l'enfant, il tétait, il n'y avait aucun problème, il n'y avait aucun antécédent jusque-là de malnutrition. Donc, c'est la première épisode. Donc, je lis ça vraiment à sa maladie.
Là, vous prenez sa température?
Oui, je vais contrôler. Juste comme elle parle de la fièvre, on va chiffrer, voir ce qu'on a fait exactement.
Vous mettez le thermomètre sous le bras du bébé?
Le thermomètre, donc, c'est la température axillaire qu'on va chiffrer, voir exactement c'est combien. 15 kg de rouane. Elle a fait 37,8. C'est un peu trop, mais c'est pas du tout grave. Quand même. Chaque 15 minutes, on va reprendre la température.
Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Samira Sals.
Je m'appelle Samira. J'ai été mariée à l'âge de 14 ans et je suis tombée enceinte après 2 ans de mariage. C'est mon premier enfant.
Alors là, ton enfant est très amaigri. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu l'as amené jusqu'ici?
Je n'ai pas, il est malade.
Il était malade. Il a commencé à avoir de la fièvre. Il criait beaucoup. Alors je suis venue ici pour qu'il soit traité, pour qu'on puisse le guérir.
Et il est très maigre aussi.
Ça m'inquiète beaucoup parce que c'est un petit enfant. C'est un bébé. Quand j'ai accouché, j'ai eu des douleurs au ventre. Ça me faisait très mal. J'ai quitté la maison de mon mari pour aller chez mes parents. Et à la tombée de la nuit, j'ai accouché chez eux.
Et pourquoi est-ce que tu penses que tu n'as pas pu aller dans un centre de santé pour accoucher?
Ce n'était pas à moi de décider, mais à mes parents. Je voulais leur demander de m'emmener, mais j'avais peur qu'ils me disent que je me comportais mal. Par contre, j'avais déjà pu faire 3 consultations prénatales au centre de santé.
Et ensuite, donc, ton bébé est né. Est-ce que tu l'as allaité tout de suite? Comment ça s'est passé, ça? Comment s'est passé le début de l'allaitement?
J'ai commencé à l'allaiter au bout d'un jour. Mais en réalité, ça m'a fait honte. Et j'ai encore honte aujourd'hui.
C'est vrai? Tu as honte? Pourquoi?
Parce que je n'ai pas l'habitude de sortir mon sein en public. Et puis, au début, allaiter, ça me faisait mal.
Docteur, alors, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on devient maman, notamment sur l'allaitement?
En fait, il faut savoir que l'enfant, il doit être allaité régulièrement. Donc, elle doit le mettre au sein correctement. Et il y a des manières de prendre, pour prendre l'enfant correctement, pour qu'il puisse être à l'aise à allaiter. Bon, ça, généralement, c'est le manque d'expérience de vivre avec des enfants. Parce que là, déjà, peut-être dans la famille, elle n'a pas été sensibilisée sur comment même allaiter l'enfant. Elle n'a pas peut-être été, surtout qu'elle a accouché à la maison, elle n'était pas retournée dans le centre de santé. Et dès qu'il y a un problème, chaque fois, avec les PC qu'on fait chaque 4 semaines, on diagnostique tôt, voir si l'enfant il chute de poids ou bien il fait des gains de poids ou pas. Parce qu'elle n'est pas vraiment mûre. Elle n'a pas l'esprit sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, tout ça, là, elle ne les a pas. Et l'enfant est tombé malade, peut-être elle l'a traîné avant de l'amener dans le centre. Ce qui fait que l'enfant est tombé dans la malnutrition. Donc, tu vois, là, même le fait d'allaiter, des fois, donc, si elle est jeune, la plupart, elles ont honte de le faire. Donc, des fois, vous allez voir si elle part à des cérémonies ou bien dans un lieu là où il y a beaucoup de gens, l'enfant, là, il sera privé de l'allaitement. Jusqu'après, donc, une période longue, l'enfant n'a pas tété, c'est normal qu'il puisse tomber aussi malnutri. La plupart, si elles se rendent dans le centre de santé là-bas, on leur explique au moins combien de fois il faut allaiter.
Et combien de fois il faut allaiter?
Pas moins de 12.
12 fois par jour?
Pas moins de 12 fois. Il faut allaiter peut-être chaque 2 heures de temps.
En fait, si ces jeunes femmes ne savent pas qu'il faut allaiter régulièrement, le bébé est plus susceptible, parce que moins fort, d'être touché par des maladies.
Dès que ça vient, les enfants malnutris, on dit que c'est des êtres immunodéprimés. C'est comme une immunodépression. Donc, une petite maladie, facilement, elle devient grande. L'enfant, dès qu'il se retrouve dans une situation de maladie, il n'arrive pas à manger. D'ailleurs, l'alimentation était insuffisante. Donc, du coup, il tombe aussi malade.
C'est un cercle vicieux, en fait.
C'est ça. Parce que la malnutrition, ça peut entraîner la maladie du fait de l'immunodépression qu'elle induit chez les enfants. Et en même temps, la maladie chronique, elle peut entraîner la malnutrition du fait qu'elle coupe l'appétit, du fait qu'il y a des signes, il y a des vomissements, diarrhée, tout ça là. Donc c'est vice-versa, vraiment.
Combien de consultations il faut faire après l'accouchement?
C'est-à-dire, à la naissance, depuis la naissance, il y a le BCG qu'on le fait. Et le vaccin contre... comment on l'appelle, la tuberculose. Donc la dame, elle n'était pas dans le centre pour avoir le BCG. Hein. En même temps, il y a le vaccin pour la poliomyélite qu'on fait la voie orale dès la naissance. Donc du fait qu'elle a accouché à la maison, moi je pense que ça n'a pas été vraiment le cas.
Il y a 4 consultations pour la vaccination qui sont nécessaires.
Toute une gamme de vaccins que le programme élargi de la vaccination a établi. Que tout enfant doit en avoir jusqu'à l'âge de 9 mois.
Et on va lui demander, alors, est-ce que toi, tu as fait vacciner ton enfant après la naissance?
Non, il n'a jamais été vacciné. Je ne connaissais pas l'importance de la vaccination. Je ne savais pas qu'il fallait le faire vacciner. On ne m'a rien dit à ce sujet. Si j'avais su, je l'aurais fait.
Vous avez rattrapé la vaccination qui manque?
On va rattraper. Bon, pour ce genre de cas, il y a une situation déjà en cours qui est prévue. Donc cet enfant, c'est un enfant, comme on dit, raté. Donc peut-être après cet épisode, il faut qu'on le rattrape. Et donc on lui propose d'après elle, qu'elle sait si elle pense qu'elle peut retourner tel jour sans aucun problème.
Dans quel centre de santé elle peut aller?
Centre de santé, elle peut aller pour la suite de ses vaccinations.
Là, il est où, le père de l'enfant?
C'est un exodant. Peut-être actuellement, il n'est même pas là. Il est au Nigeria. Même pour le contacter, c'est un problème. Elle est là, à la maison. Il l'a laissé chez les parents. Peut-être ses parents ou bien ses parents, je ne sais pas lesquels. Mais lui, il est de l'autre côté en train de chercher l'argent. Et s'il en trouve, qui sait, il va revenir avec quelque chose ou pas. Ça, on ne sait pas. Et s'il l'amène, qu'est-ce qu'il doit faire avec? peut-être il va prendre une deuxième femme. Malheureusement, c'est la situation qu'on vit actuellement. C'est vraiment triste.
Le problème, c'est bien sûr aussi le faible accès à des services de santé de qualité, également à l'information qui touche à la santé des mères mineures.
Oui, en plus d'un accès difficile aux soins, les populations n'ont pas toujours connaissance de l'impact des mariages précoces sur la santé, ni des risques nutritionnels que représente une grossesse précoce pour la mère et puis pour l'enfant à naître. Et puis il y a aussi des risques à ne pas faire vacciner son enfant. Selon les résultats de l'étude de Save the Children, près de 3/4 des mères adolescentes n'ont reçu aucun soin post-natal. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé du Niger, le docteur Ilyasu Idi Maïnassara.
Beaucoup de choses ont été faites par les pouvoirs publics, à savoir la création ici chez nous, au Niger, d'un centre de référence à Festul, la formation accélérée des sages-femmes et le développement des centres de santé. Et c'est ce qui a amené dans le cadre du programme de la Renaissance, mais également la formation des agents de santé communautaire et le recyclage des matrones, qu'on puisse former au moins 14 000 matrones de 2017 à 2021, en tout cas, pour éduquer ces femmes. Si la femme est enceinte, voilà comment elle doit faire pour aller en consultation prénatale, qu'elle doit accoucher dans un centre de santé approprié ou qu'elle doit se faire quand même aider par un agent de santé qualifié. S'il n'y a pas d'agent de santé qualifié, qu'elle soit assez par une matrone quand même qui a été formée.
Il y a des actes que les matrones ne pourront pas faire. Je pense par exemple à la césarienne, qui est gratuite au Niger, mais qui est inaccessible dans beaucoup de centres de santé qui ne sont pas équipés en matériel ou en moyens humains, en personnel qualifié. Qu'est-ce que vous comptez faire sur ce sujet-là, puisqu'on sait que la césarienne, c'est aussi une solution pour les femmes qui sont enceintes jeunes?
C'est vrai, on n'a pas quand même des hôpitaux dans tous les villages du Niger, mais quand même, pratiquement dans tous les districts du Niger, vous avez un HD, des hôpitaux de district qui prennent en charge la césarienne gratuite. Quand les capacités, les compétences de cet hôpital départemental est dépassé, il envoie au niveau d'un hôpital régional qui est encore mieux équipé au niveau de la région. Il y a 7 hôpitaux régionaux à Maradi, à Zender, à Tawa, à Agadez, à Niamey, à Zender, à Difa, et vous avez une 50aine d'hôpitaux départementaux actuellement.
Mais ça reste peu finalement par rapport au territoire du Niger qui est très vaste.
Oui, les besoins sont énormes. C'est vrai, le Niger fait partie de l'un des pays où le taux de mortalité est très élevé, mais quand même ces dernières années, des efforts considérables ont été déployés pour réduire de façon significative la mortalité maternelle et la mortalité infantile. Déjà, les partenaires, l'UNICEF, le Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le sida et le palu, l'AFD, Agence française de développement, intervient vraiment dans le cadre du renforcement des capacités, dans le cadre de l'équipement des structures de santé. Nous avons besoin de tous ces partenaires parce que les défis sont énormes.
Justement, il en reste un certain nombre de défis. Au Niger, une femme sur 7 meurt de complications liées à la grossesse. La mortalité maternelle constitue un tiers des décès des adolescentes de 15 à 19 ans. Donc là, on est au cœur de notre sujet sur les mariages précoces. La mortalité maternelle, de manière générale, reste importante. La mortalité infantile aussi. Et le Niger s'est engagé, comme un grand nombre de pays d'ailleurs, à Abuja en 2001, à consacrer 15% de son budget à la santé. Aujourd'hui, on est en deçà de 10%.
Oui, c'est vrai, mais on vient de loin. On vient de loin. Le Niger a progressé de 3% à 5%. Cette année, on est à 8,3%. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à beaucoup de chocs. Le choc de sécurité. Au niveau de toutes les frontières, quand vous venez du côté du Mali, du côté du Nigeria avec la nébuleuse Boko Haram, du côté de l'Algérie, de la Libye avec les djihadistes, le Niger est entouré, je dirais, est comme dans un océan d'insécurité. Le pays est entouré par des bandits armés qui sévit au niveau des frontières. Donc il faut renforcer cette sécurité parce que la sécurité quand même, elle est essentielle. Si la sécurité n'est pas garantie, on ne peut pas penser à l'éducation, on ne peut pas penser à la santé. S'il y a un climat d'insécurité, tu ne peux pas avoir accès au centre de santé. Donc c'est tous ces chocs aujourd'hui qui font en sorte que certains engagements, on n'arrive pas à les honorer comme nous le souhaitons.
Alors on l'a compris, hein, on invoque des dépenses en matière de sécurité au détriment des dépenses pour la santé.
Oui, 15% du budget du Niger est alloué à la sécurité, alors que ce devrait être le chiffre du budget pour la santé. Officiellement, l'accent est mis sur la santé de la mère et de l'enfant. L'objectif est de faire disparaître la malnutrition d'ici à 2030, avec de nouveaux centres de santé, le redéploiement aussi de chirurgiens obstétriciens, qui sont pour l'instant beaucoup à Niamey. Mais vu le retard accumulé, malgré l'aide des partenaires, il est difficile d'envisager une amélioration rapide. Quant au mariage des enfants, certains proposent un nouveau projet de loi pour rehausser l'âge légal du mariage des jeunes filles dans le code civil nigérien de 15 à 18 ans cette fois. Il faut préconiser aux ONG un plan d'action national, un dialogue entre les différentes parties, chefs traditionnels, leaders religieux, autorités politiques et acteurs humanitaires. Bref, il reste encore un long chemin à parcourir pour changer les mentalités.
Merci Charlie Dupiot. Ce reportage, vous pouvez le réécouter sur notre site www.rfi.fr dans la rubrique émissions. Et le sujet de demain, dans Priorité Santé, ce sera l'herpès, la varicelle et le zona. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sunu Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sunu Assurance, notre métier, l'assurance.